Le Mussem est assis au bord de la ville, les pieds dans l'eau et Marseille dans les oreilles. Tout autour du musée,
elle a pris des couleurs.
Des lieux, des personnages et surtout des histoires. Juste là, histoire d'à côté du Mussem.
Il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme du village, franchement.
C'est pour l'argent qu'il fait ça. C'est parce qu'il aime ça, il aime côtoyer les gens, il aime... Oui.
Parce que vraiment, les pierres plates, c'était notre plage.
Et c'est comme ça depuis la nuit des temps.
Épisode 4, Atlantic Jazz.
Ce lieu aurait bien pu ne jamais exister si la cafetière du gars n'était pas tombée en panne. Enfin, c'est vraiment la rencontre improbable d'un petit groupe du conservatoire qui arrive par hasard dans ce bar.
Quand on parle du bar Atlantique, j'ai tendance à penser à Claude Jaoui. Puisque le bar, c'était le sien depuis 1961 ou 62. Il avait acheté le bar à l'époque où il travaillait avec Johnny Hallyday.
Non, il y a quelque chose un peu du hasard heureux, quoi.
Les gens savaient que c'était quelqu'un qui avait une dimension particulière par rapport à l'histoire musicale de la ville, et en particulier de ce quartier. Je m'appelle Claude Vesco, je suis né en 1950 à Marseille, dans le quartier du Panier. Je suis guitariste de jazz. Claude a choisi de reprendre le bar lui-même. Et puis, au bout de quelques années, comme il s'ennuie un peu quand même dans la journée, il a cette idée particulière de créer un bœuf le samedi soir dans le bar. Alors, c'est un bar c'est vraiment un bar de quartier. Peu à peu, l'information se répand dans la ville qu'il y a le samedi soir de la musique dans ce bar. Voilà. Et petit à petit, donc, le bœuf du samedi soir devient un lieu de rendez-vous et la récurrence de ces séances, la régularité et puis la personnalité de Claude Jaoui, très, 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 très solaire, très ouvert, très... un personnage hors du commun, donc font que finalement le bar Atlantique, ça devient un spot culturel de Marseille.
Moi, je voulais juste rencontrer des musiciens de jazz parce que je savais pas où en rencontrer, quoi. Donc on m'a dit, si tu veux rencontrer des musiciens de jazz, c'est là. Donc je suis allé à la source, quoi.
Je suis Pierre Fénichet, je suis contrebassiste de jazz marseillais et j'ai commencé en fait ma carrière au bar d'Atlantique de cette manière. Qui a été le facteur déclenchant de la suite des opérations de ma carrière. On peut appeler ça comme ça.
Et je pense qu'il n'y avait pas l'idée de faire un rendez-vous hebdomadaire avec des musiciens. C'est vraiment arrivé par hasard. En fait, c'est arrivé parce qu'un copain à moi cherchait un café un matin. Parce que sa cafetière était en panne, et il est arrivé dans ce café-là, et il a vu quelqu'un qui jouait, je ne sais pas quoi, un morceau de jazz, sur le zinc, à 8h ou 7h30 du matin, je ne sais pas, au milieu de gens qui... de sa clientèle habituelle. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas normal, un barman qui joue si bien. Et de là qu'ils ont... liés d'amitié, et des gens qui étaient avant moi au conservatoire ont commencé à venir jouer.
Ben, moi, je l'ai rencontré tout simplement parce que je suis né à 20 mètres du bar. Moi, je suis du Panier, et de la rue des Repentis, angle rue de l'Évêché, au troisième étage, je suis né là-haut. Et quand j'étais ado, je penchais la tête par la fenêtre et je voyais ce type assis sur le trottoir avec une guitare incroyable, je me demandais ce que c'était, une Gibson, bien sûr, 175. Et je l'ai connu comme ça, j'ai découvert qu'il existait un musicien, un guitariste, très connu. Un jour, je suis allé le voir au bar, à la période où il venait de le reprendre, pratiquement. Et on a sympathisé, on s'est reconnu en quelque sorte. Et par la suite, pendant une douzaine d'années, on a souvent joué ensemble en duo de guitare.
Des copains étudiants m'ont dit, bah, écoute, si tu veux faire du jazz, il faut absolument aller au bar d'Atlantique. Rue de l'Évêché, juste à côté de l'Évêché, donc. Et pointe-toi là-bas et tu verras. Et pendant quelques mois, je me suis pointé pour écouter les musiciens. Et au bout de quelques mois, le patron du bar, qui s'appelait Claude Jaoui, m'a demandé pourquoi j'étais là, toujours là, tous les samedis. J'ai raconté que j'étais musicien, que je voulais faire de la musique. Et il m'a proposé de se joindre à eux. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré tous les musiciens qui jouaient à Marseille à l'époque.
Vous aviez des musiciens débutants ou confirmés, jeunes ou vieux, qui venaient. C'était un public hétéroclite. Vous aviez les gens du quartier. Et puis, vous aviez les gens qui, d'ordinaire, étaient plutôt pêle-mêle, en centre-ville, sur le Vieux-Port, qui avaient entendu parler de ce spot et qui venaient aussi... passer la soirée là. Alors c'était l'accueil était très 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 particulier, très très différent d'un club ou d'un bar normal. Les gens consommaient un peu ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient pas consommer, ils consommaient pas. Personne ne leur demandait rien.
C'était un bar de quartier. Il n'était pas question de musique toute la semaine. Sauf que le patron du bar, Claude Jaoui, était un guitariste, un très bon guitariste, et entre deux pastis et entre deux cafés, il jouait de la musique. Et il a été fédérateur de musiciens qui étaient au conservatoire, et d'autres, d'ailleurs, qui ne l'étaient pas. Et c'est pourquoi Robert Pettinelli, qui était un peu plus âgé que lui, est venu. Et Robert, c'était un peu la caution du bebop. Robert Pettinelli, c'est quelqu'un... pour qui Charlie Parker, c'est la musique de sa génération, quoi. Il y avait une espèce de bienveillance, d'exigence, d'une certaine manière, les deux à la fois. Donc il y avait des gens comme moi qui avaient 20 ans, et puis des gens comme lui qui avaient déjà un certain âge. Et il n'y a pas cette barrière de génération. C'était un lieu de transmission qui était complètement informel. En fait, ce bar était un bar de quartier toute la semaine, excepté le samedi soir. Et là, il devenait un lieu un peu étrange où il y avait beaucoup de musiciens du conservatoire, des musiciens marseillais, il y avait des clients habituels, il y avait des chercheurs des vieilles charités, des anthropologues, il y avait les flics qui travaillaient en face. Donc c'était une espèce de mélange un peu improbable. Et du coup, j'ai appris comme ça, de samedi en samedi, notamment Robert ou Claude Jaoui nous disaient « Bon, bah, écoute, apprends ce morceau-là et reviens la semaine prochaine. »
Et ça se terminait parfois de manière complètement inattendue, c'est-à-dire que la famille Jaoui, Clotilde, son épouse, David, son fils, et Claude, donc, amenaient de chez eux une marmite de dogues. Et il partageait cette daube, qui était excellente, avec tous les gens qui étaient dans le bar. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'asseoir et manger un morceau comme ça pour finir la soirée.
Elles sont cuites comme ça.
Elles sont très bien cuites, normal.
La daube, elle est...
Ouais, bonne. C'est bien cuite.
Je me ferais damner pour une daube comme ça.
T'apprendrais à jouer de la contrebasse.
J'apprenais même à jouer à la contrebasse, à jouer moins fou.
Au moment les plus forts, il y avait des gens qui étaient dehors, et c'était vraiment... c'était très, 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 très rempli, quoi. Il y avait des flics, donc on pouvait se garer en triple fil le samedi soir, et les flics ne disaient jamais rien, parce qu'ils venaient eux-mêmes boire des coups au bar d'Atlantique, donc du coup, c'était une espèce de bordel autorisé, juste devant le bar d'Atlantique, enfin, rue de l'Évêché. Après, on faisait une grande tablée dans le bar. Il y avait même quelques clients perdus qui pouvaient se joindre à nous. Et il y avait quelque chose de vraiment familial, quoi. C'était la grande famille du jazz à Marseille, enfin la petite grande famille du jazz à Marseille.
Il y avait des habitués, aussi bien du côté des musiciens que du public, et ça donnait une espèce de cocktail, un cocktail vraiment sympathique. Il y avait une atmosphère, oui, je dirais, c'était quand même, on va dire, art bop, voilà. Le style dominant, c'était plutôt art bop. Ça jouait pas du New Orleans ou des choses comme ça. On était dans le répertoire, dans les standards plutôt de la deuxième partie du XXe siècle, dans le jazz.
Il y avait beaucoup de guitaristes, alors du coup, il y avait un tour. Il y avait peut-être une dizaine de guitaristes par tous les samedis soirs. Qui prenaient leur tour pour jouer, pour faire le blues ou un autre morceau. Je me souviens vraiment du répertoire, c'était un répertoire très... répertoire de jam, donc tous les musiciens connaissent. Des Feuilles Mortes, Bye Bye Blackbird, le blues, Anatole, des morceaux du Clinton, des morceaux de Charlie Parker. Mais Claude Jaoui était veillé vraiment, c'était la caution humaine. Il veillait à ce que tout le monde soit bien accueilli, quel que soit son niveau, son style, son goût. Chacun venait partager ce qu'il avait à partager.
Lui, il était en fait, on va dire, de la rue Coutellerie. Sa mère tenait un restaurant dans cette zone, dans la rue Coutellerie. Donc lui, il a passé son enfance dans les bars, comme ça. Voilà.
Une fois, on s'est baladé ensemble au panier en me disant ouais, « je suis né sur ce trottoir-là, j'aurais très bien pu m'a tourné, mais la musique m'a permis de pas devenir un voyou, je sais pas, mais enfin quelque chose dans cet ordre-là, quoi. Voilà. Il y avait le côté rédempteur de la musique.
Il est né dans ce qu'on a appelé le quartier réservé, qui a été détruit en janvier 43 par la préfecture et les Allemands. Ce quartier réservé, si vous voulez, en 1865, le préfet de l'époque, Moupa, il décide de faire un peu comme dans les villes de garnison, un quartier dans lequel la prostitution est tolérée. Et ce quartier se structure donc sur des décennies. Et donc Claude est né dans ce quartier. Et d'ailleurs, il a vécu aussi la démolition du quartier. Donc ils ont dû partir pour se réfugier dans d'autres parties de la ville et attendre que ça se calme, c'est-à-dire la fin de la guerre. Il y avait son histoire, son épopée avec Johnny, avec Sylvie Vartan, avec Claude François, etc. Les gens le regardaient toujours comme une espèce de rescapé d'un âge d'or. Et il a gardé cette réputation. Il l'a gardé même maintenant, 12 ou 13 ans après son décès. C'était un autodidacte. Et il a appris la musique dans les bars, notamment dans le restaurant de sa mère, parce que, si vous voulez, il y a une espèce de tradition qui fait que, par exemple, il a appris avec les Corses et les Gitans, qui passaient dans les bars et qui tapaient la guitare un peu pendant un moment. Ça, il a appris tout seul. Et en fait, lui, son histoire, c'est qu'en 1958, il part faire son service militaire en Algérie. Et là, il est affecté comme musicien aux messes des officiers. Et donc, il apprend à jouer dans un contexte un peu professionnalisé. Et quand il rentre après son service militaire, il cherche du travail et il en trouve avec un rocker marseillais qui s'appelait Rocky Volcano. Je ne pense qu'à t'aimer. Je ne pense qu'à t'aimer. Pas rien d'autre qu'à t'aimer. Rocky Volcano, c'était un personnage extraordinaire, un chanteur dont Johnny Hallyday avait peur. Et le gars, il se roulait par terre, il était excellent. Et donc, il y avait une petite équipe autour de Rocky Volcano, dont Claude Jaoui. Et un jour, il y a un festival, ça doit être en 60, à Paris, et Johnny Hallyday repère le guitariste de Rocky Volcano. Et le débauche, ce qui lui a permis de faire un petit croque en jambe à Rocky Volcano. Bon, et ce qui a ouvert la carrière à Claude Jaoui.
C'est quelqu'un qui a appris avec un seul disque. Il y avait un disque d'un guitariste qui s'appelle Tal Farlow. Et il m'a dit, je vais écouter au ralenti. Et j'ai appris avec ce disque-là. C'était vraiment un amateur de bossa nova. Il était très très bon là-dessus. C'était incroyable quand il jouait la bossa nova.
Claude, il adorait la bossa nova, il adorait le jazz, bien sûr. Notamment, il était très proche de Sacha Distel, qui lui aussi était un vrai guitariste de jazz. Et Claude, souvent, a remplacé un autre grand guitariste marseillais qui s'appelle Paul Piguilhem, et qui était le guitariste attitré de Sacha Distel. Donc, quand Piguilhem n'était pas libre, Claude le remplaçait, etc. L'Atlantique, le bar Atlantique, c'était un spot culturel. C'était vraiment ça. D'ailleurs, les gens qui y étaient, ils en parlent toujours comme d'un âge d'or. C'était l'âge d'or de cette époque, c'était l'âge d'or du jazz d'après-guerre à Marseille.
Je pense que ça a cimenté quelque chose. Des gens qui étaient là ont vécu ce petit moment, entre parenthèses, du samedi soir où on se retrouvait. C'était notre famille du jazz, quoi. Ouais, je crois qu'il y a eu un lien, ça nous a soudés, quoi.
Et Jaoui, il a eu sa place en créant ce rendez-vous hebdomadaire et surtout totalement désintéressé. Mais totalement désintéressé. Il s'en foutait qu'il y ait du monde, qu'il y en ait moins, que ça consomme pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir des musiciens dans son bar et que ça joue de tous les côtés. Voilà.
C'est un épisode de Juste là, histoire d'à côté du MUCEM, un podcast proposé par le MUCEM, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon et Philippe Pujol, mixage et sound design François Charrier, musique Jean-Michel Burgère.